Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Non,
ah si.
Moi c'est bon.
Ouais, c'est bon.
Allô. Là on est bien là.
On est bien.
Je m'entends mieux que la semaine dernière en tout cas.
Silence on joue, Erwan Cario, bonjour. Aujourd'hui, on va parler Fallout, Square Enix et Eidos, le com des coms, comme chaque semaine, Resistance Retribution sur PSP, les chroniques de Riddick, Assault on Dark Athena sur 360 et PS3 et PC, Monsieur Fall comme chaque semaine, et là, on va finir avec les 20 ans déjà, 89, souvenez-vous, la Game Boy. Et ce sera tout pour cette semaine, le programme est déjà assez chargé, mais je vais commencer en accueillant mes deux chroniqueurs favoris, Clément Apap, bonjour Clément.
Bonjour.
Et Patrick Elliot de Rogamer.fr, bonjour Patrick.
Bonjour Awan.
On commence avec toi Clément, tu vas nous parler de quoi ?
De Fallout. Fallout, une licence que je vénère ou que je vénérais.
On le découvre dans ce numéro.
C'est la première fois que tu en parles.
C'est incroyable.
C'est dingue.
Voilà, donc les fans de Fallout, bah ils ont globalement l'habitude d'attendre et d'être un peu déçus. Et là, ça risque d'être le cas puisqu'on a eu des nouvelles du MMO Fallout, parce qu'effectivement il y avait un MMO Fallout en préparation chez Interplay, le premier développeur de Fallout 1 et 2, qui s'appelait donc Project V13, enfin V13, comme l'abri 13 en fait. Et en fait, c'était pas Bethesda. Bethesda avait racheté tous les droits pour développer Fallout, mais c'était toujours Interplay qui devait le développer. Et là, apparemment, dans les clauses du contrat, Interplay a pas du tout respecté ces clauses. C'est-à-dire que le jeu devait être au 4 avril dernier, il devait être déjà bien avancé, et il devait avoir trouvé de l'argent. Et ni l'un ni l'autre, voilà, ont été respectés. Donc, Bethesda risque d'enlever à Interplay le droit de développer le MMO Fallout. Donc, apparemment, c'est mal barré pour ce projet-là. Et en parallèle, quelques jours après, donc là, très récemment, on a appris le développement d'un nouveau jeu Fallout qui s'appellera Fallout New Vegas. Alors, c'est pas un Fallout 4, c'est pas la suite d'un Fallout 3. C'est un nouveau jeu dans l'univers Fallout qui n'est pas développé par Bethesda. Pour l'instant, on se dit, ça sent un peu comme le roussi.
Ouais.
Lueur d'espoir, le développement a été confié au studio Obsidian. Obsidian, c'est ceux qui ont fait KOTOR 2 et Neverwinter Nights 2.
Bon, ils ont quelques références.
Donc voilà, tout ce qu'on sait.
On sent qu'elle part en vrille un peu, cette licence.
Ben, en fait, ils veulent.
Il y avait un espoir de résurrection à un moment. Et puis...
Il n'y avait pas une rumeur de film aussi, non?
Si, justement.
Ça peut être intéressant, ça.
En fait, c'est juste que la licence Fallout, c'est un peu comme. C'est un jeu qui a été comme une
boîte de chocolat.
Voilà. Non, mais c'est un succès critique et ça joue à mort sur la fibre nostalgique. Faut reconnaître, c'est un jeu fantastique. Et aujourd'hui, comme Fallout 3 a marché, ils vont décliner la licence à l'envi. Vraiment, ils vont la décliner et la sucer jusqu'à la moelle. Et en fait, ce qui se passe, c'est que donc, en plus du nouveau Fallout, en plus du MMO qu'il y a, ils ont annoncé qu'il y aurait peut-être des séries, des films.
Un
des
menu machins. McDo.
Voilà, ça, Fallout. Ouais, donc,
on va arriver de Fallout.
Voilà pour le tour de la licence Fallout. Hein.
Ce qui te fait énormément plaisir.
Voilà.
Bref. Patrick.
Pour moi, l'info de la semaine, bah, c'est le rachat entériné, cette fois, de Eidos par Square Enix. C'était en discussion, il fallait des validations, c'est fait. Donc on peut dire aujourd'hui que Eidos appartient à Square Enix.
C'était Eidos SCI ? C'était aussi SCI ou
oui, bah oui, parce que ça fait partie du groupe.
C'était en vente depuis fou, ça a
un
été
moment,
en vente.
On situe rapidement, ouais. Donc Square Enix, c'est Final Fantasy, ouais. Dragon Quest, ouais. Qui rachète donc Eidos, Tomb Raider, Hitman. Donc
Tomb Raider, Hitman, et c'est à peu près tout, hein. C'est
voilà quelques titres. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a un peu l'impression aujourd'hui que les géants japonais ne peuvent plus se satisfaire uniquement de créations
sur un marché
japonaises pour le marché japonais, mais ont vraiment besoin de prendre place sur le marché européen et aussi sur le marché occidental. Et là, c'est vraiment un mouvement assez assez fort dans ce sens-là.
En même temps, Square, c'est quand même la boîte japonaise qui a sans doute le plus exporté dans le monde.
Exactement, mais qui a aussi besoin de développer des contenus.
Avec Konami, mais c'est le
ouais,
studio.
Mais, oui, mais avant, voilà, comme Nintendo, comme le disait Patrick, que je vais laisser parler. En fait, c'est que oui, Square avait déjà fusionné avec Enix. Et là, ces derniers temps, ils avaient commencé à annoncer l'édition de jeux purement occidentaux, notamment de jeux de stratégie en temps réel.
Donc voilà, ça s'inscrit sûrement dans une volonté de diversification. Alors après, on ne sait pas ce que va devenir le label, enfin la marque Eidos. Est-ce qu'elle va être intégrée chez Square Enix? Est-ce que la marque Eidos va continuer?
Oui, elle va continuer d'exister.
Que vont devenir les Tomb Raider? Est-ce qu'il y aura un Tomb Raider qui va développer avec comment dire, le savoir-faire Square Enix? Enfin, on ne sait pas trop comment
un
ça va se
crossover Tomb Raider Final Fantasy.
Ça pourrait être intéressant de voilà de mélanger. Enfin voilà, on ne sait pas trop comment ça va évoluer.
Lara Croft avec des fringues débiles.
Oh my god.
En tout cas voilà, on voit bien que le secteur continue à se concentrer et voilà, c'est une nouvelle étape encore qui s'est faite tout récemment cette
Square
semaine
qui rachète Eidos, donc voilà, c'est vendu. Le com des com de la semaine dernière, avec on commence avec une petite remarque à notre ami Clément Appap, monsieur, alors
présent.
C'est le tyran qui écrit monsieur Clément Appap, il me prend souvent l'envie d'applaudir vos avis tranchés et vos coups de gueule. Ça commence bien.
Ouais,
néanmoins, serait-il possible que vous fassiez violence de temps en temps, de temps à autre, afin de laisser à Patrick Hélio le temps de développer son propos au lieu de lui couper la parole?
Tu vois, Clément, on en arrive. Regarde ce qui se passe aujourd'hui.
Non, c'est vrai.
Non, mais ça, les auditeurs n'ont pas, je pense, ne comprennent pas ce qui se passe sur le plateau ici. Ils ne se rendent pas compte de l'ambiance détestable qui est sur le plateau, où vraiment.
Voilà, on rigole en soi.
T'as vu, je laisse parler là. Hein. Je l'ai pas coupé.
Non, on va mettre en place un système de minuterie, en fait.
C'est la passion.
Pour
c'est
que,
la passion.
Voilà, que chacun ait le temps alloué.
Un temps de parole.
Hein. Propre. Exactement. Comme ça, en fin d'émission, on laissera la parole. Éventuellement, j'aurai peut-être 10 minutes en rab à la fin où je pourrais parler des films bis que j'ai découvert dans la semaine ou voilà de mes trucs un peu perso. Moi, ça me dérange pas.
On ferait le système des trois tiers.
Et voilà, donc comme ça, chacun raconte un petit peu ce qu'il a. En tout cas, c'est une bonne idée à creuser.
Merci le tyran.
Voilà.
Merci le tyran.
Arrête de parler, toi. Enfin, c'est vrai que tu...
Knuckles qui réagit donc toujours à ces histoires de Peggy, d'indications moins de 18 ans, etc. Moi aussi j'ai des enfants, 3, 5 et 6 ans, et moi aussi je dois jongler avec les classements en me demandant parfois à quoi ils correspondent. J'avoue par exemple trouver excessif le 16+ de Castle Crasher. Inversement, je ne comprends pas que le 3+ de Burnout Paradise soit devenu un 7+ à l'occasion de sa réédition en Ultimate Box. Je suis convaincu que certains 18+ sont plus marketing qu'autre chose, à l'exception d'un traitement un poil plus réaliste. Assassin's Creed n'est pas tellement plus violent dans l'absolu que Zelda Wind Waker qui est classé 7+. Smash Bros Melee est classé 3+. Smash Bros Brawl est classé 12+. La vache, il faut un permis pour la Wiimote. Inversement, j'attends la nuit noire pour jouer à Bioshock ou à un Resident Evil. Non seulement pour certains, je ne veux pas qu'ils y jouent, mais je ne veux pas qu'ils les voient. Et ils demandent, et là la question est intéressante, comment sont décidés, ça correspond à quoi ces classements, c'est quoi
c'est mal décidé apparemment, parce qu'effectivement les exemples qui reprend sont très justes en tout cas.
Mais donc comment sont décidés les 18+ qui sont sur les boîtes? Ce sont les éditeurs eux-mêmes, je crois, qui proposent
et
généralement c'est rarement rarement refusé, il y a jamais des scandales.
C'est arrivé sur Manhunt? Non, c'était autre chose.
Non, Manhunt ils l'ont balancé en 18+
direct.
Ils ont pas
Je sais pas pourquoi.
C'est bizarre. Étonnant. Et dernière petite chose, donc c'est notre lecteur auditeur Otak qui m'a envoyé ces morceaux. On les a pas passés cette semaine, mais on écoutera la semaine prochaine. C'est pas mal du tout. When you lose your faith. Where's Lieutenant Grayson? We don't know, sir. He just went crazy. When you lose your freedom. Desertion in time of war is a capital offense. I am here to offer you a reprieve. You want to know about the conversion centers? We are close, Shanks. With your help, I can get the materials we need to finish it. The only thing you have left is retribution. Resistance Retribution sur PSP. Je viens de réécouter, c'est pas la voix de Jason Statham qui
joue
le héros.
Fait une fixation, Erwan, c'est terrible.
Mais bon, il y a un accent anglais dans
oui,
cette voix-là.
Oui, tout à fait, bien sûr.
Non, bah, je vérifierai, je suis sûr.
Et donc, il n'y a qu'un anglais, bien évidemment.
Ça ne peut être que lui, évidemment.
Oh là là. Patrick, oui, tu as joué, donc tu as ressorti ta PSP.
Exactement, écoutez, le soleil est là, il fait beau, beau, c'est le moment de ressortir les consoles portables, d'aller jouer un petit peu dehors, c'est sympathique.
Résistance.
Donc, enfin, voilà, moi, ça faisait un petit moment que j'avais pas sorti ma PSP, donc là, Sony lance, Resistance Retribution. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau volet d'une série qui a commencé sur la PlayStation 3.
Oui.
Resistance, c'était un des premiers jeux disponibles avec la PS3, le premier Resistance, il y a deux
FPS,
volets.
Donc
des jeux, ah tu faut pas que tu me coupes quand je parle, je crois que j'avais pas saisi merci d'attendre que voilà. Donc je finis mon topo. Donc le jeu en donc c'était donc voilà, deux jeux en vue subjective, jeu d'action qui se passe dans les années 50 où une race d'aliens, les chimères, ont envahi le monde et c'est une catastrophe, c'est terrible. La version PSP opte pour un autre point de vue puisque on passe à la vue à la troisième personne.
Ah non, c'est plus un FPS.
Ce n'est plus un FPS. On passe à la troisième personne. C'est plus sympa, je pense, pour les FPS. C'est plus adapté pour bien identifier où se trouve son personnage dans l'écran. Et ne regarde pas comme ça non plus. C'est voilà, merci. Et donc adaptation de la série. Alors c'est une série qui marche plutôt bien sur PS3, qui est bien posée. Je crois qu'il s'en est vendu environ 130 000 exemplaires. Donc c'est quand même un vrai poids lourd maintenant sur la PS3.
130 000, c'est pas des masses. Hein. Pardon de couper.
Pour une nouvelle licence, c'est quand même pas mal. Merci Clément. Et donc, donc Résistance, le scénario de Résistance Rétribution se positionne entre les deux résistances de la PS3. Vous allez la suivre.
Oui,
c'est un scénario
oui.
alternatif où on suit un personnage comme ça où le théâtre de l'action est notamment en France. Donc on se sent plus concerné, etc. Et c'est plutôt une très bonne surprise. Moi, c'est le jeu que j'utilise en ce moment dans le métro pour mes déplacements. Donc
D'accord.
C'est pas rien. C'est quand même une marque de,
ah, oui, oui,
de
non,
qualité.
Non, c'est vrai. Est-ce que tu loupes ta station d'arrivée?
Non.
Ah.
Non, ça, je l'ai eu sur GTA et sur Layton.
On n'est pas encore au stade où on rate sa station. Donc,
mais en tout cas, non, c'est plutôt bien adapté, c'est une bonne surprise. Alors, bon, ça reste très linéaire. Pour moi, le vrai problème du jeu, c'est la maniabilité. C'est-à-dire qu'il manque toujours ce satané deuxième joystick analogique sur PSP.
Ouais.
Parce qu'en fait là les mouvements se font avec les trois touches, le triangle, rond, croix, etc. pour se déplacer de façon latérale, etc.
Ah
et
oui.
le stick analogique est pour le regard grosso modo, ça donne un peu ça. Les regards sont aussi sur les touches. Mais voilà, c'est pas super fluide au niveau des mouvements, mais le jeu est plutôt bien construit, on avance bien dans le scénario, bonne durée de vie visiblement, il y a pas mal de modes multijoueurs qui sont plutôt sympas. Et la réalisation surtout est assez impressionnante.
C'est vrai, mais tu me disais que on était largement au niveau de la PS2.
Oh, largement. Ouais, moi je trouve que ça ressemble vraiment graphiquement à ce qu'on avait de mieux sur PS2.
Quand
la bécane était vraiment maîtrisée. Je trouve que c'est vraiment vraiment graphiquement très impressionnant. Le gameplay est bien huilé. Vraiment, c'est un jeu très agréable. Pour moi, voilà, le vrai défaut, c'est ça, c'est cette maniabilité que cette console qui reste assez rigide et assez pas spontané, et voilà, il manque toujours ce deuxième stick. Mais en tout cas, voilà, c'est une valeur sûre. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne surprise. Pour les fans de jeux d'action à la troisième personne, plutôt bien fini, bien fignolé.
Ça vaut le coup que je ressorte ma PSP.
Essaye, vraiment, je te le conseille. C'est vraiment une bonne surprise. Et puis l'univers est très sympa. Je sais pas si vous avez essayé les deux volets sur PS3, qui avaient un univers plutôt rigolo.
Ça y est, Clément fait la gueule, il veut plus parler.
C'est encore pire quand il parle plus, en fait. Tu vois, c'est encore pire.
On va revenir.
Allez, vas-y, raconte, dis-moi ce que t'as à dire. Bon, en tout cas, voilà, moi, c'est un peu mon coup de cœur du moment sur PSP. Puis c'est bien d'en jouer un petit peu sur PSP, parce que c'est vrai que ça donne un petit moment.
Moi, j'avoue que j'y ai pas vraiment touché. Pas touché, mais c'est vrai que sorti des patapons depuis
quelques temps, on avait
God of War, gros jeu
voilà,
d'action
qui était bien adapté aussi. Bah là, voilà. Puis en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que c'est une adaptation intelligente sur la console qui prend en compte.
C'est pas un remake, quoi.
Voilà, on passe dans une vue différente, troisième personne, et ça se prête vraiment bien.
Ouais.
Voilà.
Et un revival de la PSP alors ?
Eh ben c'est prévu, il y a pas mal de titres qui ont été annoncés, il y a Little Big Planet qui doit arriver, il y a Assassin's Creed qui est prévu. On sent que il y a une volonté un peu de remettre la console en avant.
Sans
et
doute.
Et
moi je pense que c'est la PSP, elle va être intéressante à partir du moment, enfin la prochaine itération de la machine,
ouais.
Où normalement les jeux seront en téléchargement uniquement.
C'est ce qui se dit. Voilà, c'est la rumeur. Et
ça c'est intéressant.
Serait,
déjà, Patapon 2 aux États-Unis, il est qu'en téléchargement
ou avec, le premier
ou en
test,
vente,
oui, de vente
ou en vente
ça.
En magasin juste avec un ticket. Pour le télécharger.
D'accord.
Et là, je pense qu'il y aura beaucoup plus de jeux proposés, puisque, comme on l'a vu sur les autres supports, quand on passe à la dématérialisation, il y a beaucoup plus d'offres.
Et
aussi.
Surtout, sur la PSP, gros intérêt double, qui est un intérêt d'autonomie, parce que tu n'as plus l'UMD à faire tourner, donc ta console dure plus longtemps, et intérêt de taux de chargement, parce que l'UMD a quand même un taux de transfert absolument
assez
ridicule.
Et pas mal de chargement, d'ailleurs. Sur,
voilà, donc peut-être que la PSP, l'occasion de la nouvelle sortie...
Mais en tout cas, c'est bon de se plonger dans un jeu qui est super bien réalisé, où on voit vraiment que la bécane en a quand même dans le ventre, et a vraiment des capacités graphiques qui...
Mais avec ce bel écran, quand même, c'est un
clair.
Petit peu dommage de s'en passer.
They say hope begins in the dark, but most just flail around in the blackness, searching for their destiny.
T'as vu, je t'ai laissé parler.
The darkness, for me, is where I shine.
Chronicles of Riddick, Assault on Dark Athena, cette voix quand même, cette voix,
et c'est pas Satan cette fois, hein.
Non, c'est là, on la confond pas, là c'est donc Vin Diesel qui se charge évidemment lui-même du doublage du héros qu'il a incarné donc dans Pitch Black. Et un Riddick un peu plus anecdotique ensuite. Donc
là, cette fois, je laisse la parole à Clément, parce que moi, personnellement, j'ai pas pu essayer le jeu. Donc, Clément, je te laisse la parole.
Merci,
c'est
gentil.
Tu peux nous dire ce que tu penses du jeu et on attend fébrilement ce que tu vas nous dire.
Merci.
Merci, Clément.
Merci, Patrick. Oui, alors, Riddick sur Riddick en 2004, c'était une grande, grande surprise.
On s'y attendait pas, hein.
Pas du tout, parce qu'en plus, le studio avait fait un peu des merdes avant. Donc, on l'attendait pas spécialement. Et c'était une grosse, grosse surprise. Un mélange de FPS et d'infiltration.
Avec un gros scénar aussi.
Avec un gros scénar. Avec un gros scénar.
Système de dialogue, machin.
Très bien réalisé, hyper intéressant. Et donc vraiment grosse surprise. Grosse surprise. Et là, en 2009, donc il y a une réédition du premier.
Mm-hmm.
Donc refait avec des graphismes au goût du jour et les ajouts de la version PC de l'époque. Et surtout Dark Athena, qui est donc un nouveau chapitre.
Ouais.
Et en plus, en troisième bonus, donc il y a deux tiers. Il y a la première tiers, c'est le remake du premier. Deuxième tiers, c'est le nouveau chapitre Dark Athena. Et troisième tiers, c'est les modes multijoueurs qui n'existaient pas dans le 1. Alors, moi, je l'attendais donc. Je l'avais un peu vu à Londres en plus. Et donc, il m'excitait un peu, comme on dit. Et en fait, j'étais un poil déçu. Alors, je suis...
Ah ouais?
Ouais, vraiment. Alors, je suis super content. Alors, pour ceux qui ont pas du tout joué au premier, ça vaut le coup de l'acheter.
Ne serait-ce que pour le premier jeu, remis au goût du jour,
qui est toujours frais, qui est toujours super intéressant. On voit que parfois dans l'animation, ça reste un peu vieux. Voilà. Mais sinon, ça vaut vraiment le coup pour ce jeu-là. Maintenant, Dark Athena, moi, j'étais un peu déçu. Quand j'ai vu la présentation, j'en entendais beaucoup. Et finalement, j'étais un peu déçu pour deux raisons principales. La première, c'est que on parle beaucoup de ce qui faisait le charme, du premier Riddick. C'est-à-dire que le premier Riddick, c'est un FPS. Enfin, FPS. Parfois, on voit des troisième personne, mais infiltration. Et là, pour moi, quand on avance dans le jeu, c'est un peu trop shooter. Un peu trop shooter par rapport à l'aspect infiltration.
Mais ça, on en a parlé. Moi, donc j'y ai joué et j'ai pas trouvé tant que ça, quoi.
Mais t'avances un peu plus.
Régulièrement prendre les armes des.
Tu choisis
des
peut-être comme
le
un
choix,
coup, en fait, non
le choix.
Oui,
évidemment, le choix est fait, mais je trouve que dans le premier, c'était kiff. Là, justement, les critiques, c'était que justement, ça manquait un peu d'action. Et là, ils ont mis trop sur l'action. Et ça. Personnellement, donc c'est vraiment personnel, hein, je trouve pas ça forcément bien pour le truc. Le scénario est un peu plus pourri. Et surtout, moi, ce que j'ai pas du tout aimé, c'est l'intelligence artificielle. Alors, certes, ce sont des drones.
Oui,
ce sont des drones.
Des abrutis.
Des abrutis, donc ça peut justifier. Maintenant, il y a aussi des mercenaires. et je, enfin donc des humains parfois, et je trouve l'IA totalement à la rue. Moi, il m'est arrivé un truc.
Là-dessus, je suis assez d'accord.
Il m'est arrivé un truc et qui est, je suis pas le seul à qui c'est arrivé parce que j'en ai un peu parlé autour de moi, notamment quand on sort de la lumière de l'ombre, pardon, parce que c'est un jeu qui joue vachement sur ombre, lumière, etc. Quand on sort de l'ombre, par exemple, en gros, il y a deux scripts. Il y a un script de l'ennemi. Je te fonce dessus pour buter, et le script, je me recule et je me mets à couvert. Et moi, à un moment, quand je sortais de la lumière, il me courait dessus, et hop, quand je rentrais, hop, c'était n'importe quoi, c'est que, à 2 millimètres près, il me courait dessus, hop, il revenait, hop, il me courait dessus, il revenait. Bon, voilà, c'est les trucs qu'on n'a pas l'habitude de les voir dans les jeux aujourd'hui.
Non, c'est vrai que sur l'IA, on est face à des ennemis, même ceux qui te sautent dessus en corps à corps, c'est, ils font la queue.
Et en multijoueur, ça donne quoi? Tu joues?
Moi, j'ai pas joué en multijoueur. Mais apparemment, des échos que j'ai, mais voilà, c'est pas mon expérience personnelle, c'est pas fantastique, c'est sympathique. Donc voilà, moi, je trouve, globalement, je trouve cet épisode, alors il faut vraiment l'acheter si on n'a pas joué au premier. Parce que rien que le remake du premier, un peu mis au goût du jour, vaut toujours le coup pour ceux qui l'ont pas connu.
Les graphismes ont été refaits.
Moi, ce que j'aime bien, c'est ce passage FPS vu à la troisième personne sur certaines, enfin, qui donne une espèce de précision au personnage à chaque fois. Enfin, quand on fait des actions, on repasse en troisième personne pour avoir une meilleure vue et tout ça. Et ça donne une espèce de précision, de réalité
à
l'ensemble qui est toujours très impressionnante. Et dans ce numéro, moi, j'ai quand même énormément apprécié les dialogues qui sont toujours écrits d'une manière fantastique, vraiment. C'est on est à un stade de dialogue de séries télé ou de choses comme ça, vraiment très très impressionnant.
Mais c'est vrai que rien dans l'intro, on peut les laisser parler. Moi, je les laissais parler avant de les buter, je les laissais parler rien que pour le kiff du dialogue, c'est vrai.
Et d'une part, bon, il y a la voix de.
Je les ai
pas
laissés parler, c'est vrai.
Ouais.
Ouais,
eux, je les laissais parler. Eux.
Pas mal. Hein.
Mais après, je les butais. Attention.
Là, je peux le laisser parler, mais
attention.
T'as une arme dans ton sac, c'est ça.
Et d'une part, les doublages aussi. Les doublages voix, ça va avec, mais les doublages voix, bon, non seulement il y a Vin Diesel, mais tous les autres personnages secondaires.
Et même Jason Statham, mais ça, tu le...
Patrick. Non, mais sérieux. Moi, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Ça m'a vraiment fait plaisir de retrouver le personnage qui, je pense, d'ailleurs, dès l'origine, dès le premier pitchback, est un personnage de jeu vidéo.
Il est énorme.
Avec ses lunettes qu'il enlève, qu'il remet, quand il est dans le noir et dans le jour. C'est un personnage de jeu vidéo.
Et moi, je me rappelle de la mise en scène très cinématographique du premier. Parce que moi, j'avais joué beaucoup au premier sur Xbox. Et je me rappelle que c'était très cinématographique, justement, que ces effets de caméra, comme tu disais.
Ils existent encore.
Vraiment,
il y a encore ce côté
cinéma.
Il y a des bons côtés. Il y a des bons côtés. Mais moi, franchement, pris à part et en avançant, je crois un peu plus avancé que toi. Moi, je trouve ça. J'étais déçu, quoi. Enfin, c'est pas un jeu pourri. C'est un jeu médiocre, moyen pour moi. C'est un jeu. C'est pas un jeu.
Moi, je me suis bien éclaté quand même. Hein. J'avoue que je me suis.
Il est
bien
plus
amusé,
lent.
Toujours,
ouais, mais le level design, franchement, par moment, bon, c'est peut-être un problème perso, et pas un problème du jeu. Mais je me suis paumé plusieurs fois. C'était pas clair. Voilà, c'était. J'ai pas si avec que Dark Cassina, moi franchement je le conseillerais pas quoi. Maintenant,
pour ceux qui ont pas joué au premier, en tout cas c'est un indispensable.
Indispensable,
je pense.
Ouais, tout à fait.
Et on va accueillir maintenant, comme chaque semaine, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique jeux de société. Bonjour Monsieur Fall.
Bonjour mon cher Erwan. Depuis quelque temps, j'ai constaté une tendance chez les éditeurs, c'est la réédition de jeux d'antan. Alors attention, quand je dis jeux d'antan, je ne parle pas d'une période de 40 ou 50 ans. Non, je parle d'une période assez courte, on va dire 4, 5, allez 10 ans grand maximum. C'est le cas de Matago qui nous sort un jeu, répondons au nom de Art Moderne, un jeu signé Rainer Knizia et qui a vu sa première édition au début des années 90. Alors mon cher Erwan, la mécanique d'Art Moderne tourne quasi complètement, totalement, exclusivement autour des enchères. Pour tout vous dire, je trouve que personnellement, Art Moderne est probablement ce qui s'est fait de mieux en jeu d'enchères jusqu'à présent. Art Moderne, mon cher Erwan, vous propose de rentrer dans la peau d'un galeriste. Vous allez parcourir les ventes aux enchères d'œuvres d'art pour essayer d'en faire l'acquisition au moindre prix et essayer de revendre les vôtres à un prix maximum. Force est de constater, mon cher Erwan, qu'au niveau des enchères, vous allez être servi puisqu'il y a 4 façons de gérer les enchères dans ce jeu. Des enchères à points fermés, des enchères fixes, des enchères à la volée, des enchères tournantes. Bref, de quoi rassasier tous les amateurs d'enchères. Inutile de vous dire que si vous êtes allergique aux enchères, si vous êtes incapable d'essayer d'évaluer la valeur d'une carte, c'est pas la peine d'essayer d'y jouer. Par contre, si vous êtes sensible à cette mécanique, là, je peux vous dire que c'est le top. D'autant que Matago, l'éditeur, a fait un travail formidable sur cette édition française. Il a confié les illustrations à Carole Carion, qui a fait un travail qui rend le jeu beaucoup moins austère que les versions précédentes. Le jeu est prévu pour 3 à 5 joueurs à partir de 8 ans. Une partie dure moins de 60 minutes et vous trouverez la boîte d'Art Moderne à 30€ maximum. Un jeu à posséder absolument qui vient d'arriver là tout de suite sur les étals de vos boutiques. À la semaine prochaine, mon cher Erwan.
À la semaine prochaine, monsieur Fall. C'est vrai que je suis assez friand de ces rééditions. J'ai récupéré Illuminati récemment, ça m'a fait bien plaisir. Allez, un quiz, c'était quoi ?
Ah, c'était Tetris sur Game Boy,
oh,
évidemment.
C'était pas dur, hein, c'était pas dur. Le 21 avril 1989, le jeu vidéo a connu une grande révolution, en tout cas au Japon. C'était la sortie de la Game Boy. Cet énorme rectangle.
Première console de Nintendo portable.
Première console de Nintendo portable
qui arrivait dans la foulée du succès de la NES, la première console de, on va dire, de salon grand public de Nintendo, et c'était un carton phénoménal, la Game Boy. Ça reste une date. Alors je sais pas si vous vous rappelez de l'époque où est sorti le Game Boy. On dit le Game Boy au Japon.
Ça jamais, moi j'y arriverai jamais. Donc ça te gêne ou c'est...
Non, vas-y.
Non, ouais, d'accord.
Mais donc sorti aux États-Unis quelques mois après et en Europe je crois en octobre ou septembre 90.
Novembre 90.
À l'époque, la Lynx d'Atari sortait quasiment en même temps, elle était annoncée. Et c'était une console 16 bits, super puissante, plus puissante qu'un Amiga à l'époque. Enfin, c'était une console révolutionnaire. Et on se demandait, mais qui va gagner? Alors que la Game Boy, en fait, c'était une console plus modeste avec un écran monochrome.
C'est comme la DS et la PSP.
Exactement.
Fait.
Et, Nintendo.
On va peut-être arrêter avec le running gag.
Bah non, moi, je trouve ça plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal de bien cerner les choses. Et donc, ouais, carton absolu Nintendo. La force de Nintendo, c'est d'avoir conçu une console qui était peu cher.
Ouais.
Donc qui était vendu à un prix accessible.
Il était à 12 500 yens, c'est-à-dire 73 euros d'aujourd'hui. Ce qui est
c'était donc très abordable. Ouais. C'est une console qui avait beaucoup d'autonomie. Donc qui était, alors, une Lynx, tu la branchais en 2 heures, t'avais plus de batterie.
La Game Gear.
Parce que t'as eu plus, voilà, il y a eu plusieurs constructeurs qui ont voulu s'aligner sur le succès de la console portable de Nintendo, Sega, Atari et d'autres, et NEC. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas pu tenir face au rouleau compresseur Nintendo, qui avait donc l'autonomie, prix.
La NEC était mortelle, mais bon.
Et les jeux, parce que Nintendo a amené tout de suite ses licences fortes, Super Mario, les Zelda, etc., sont venus sur le Game Boy, et ont été des vrais cartons, et ont vraiment imposé la console, très très vite.
Grosse durée de vie, et notamment j'ai lu il y a pas longtemps, je sais plus le site, pardon pour lui parce que j'aurais dû le citer, mais que justement la Game Boy aurait dû être remplacée plus tôt par la DS, ou par les successeurs, mais c'est Pokémon en fait qui l'a fait durer fort longtemps la fin.
Parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu pas mal d'évolutions.
Sorti en 96, Pokémon.
Plusieurs évolutions de la Game Boy, donc la Game Boy classique, ensuite une Game Boy Color qui amenait la couleur je crois vers 2000. Ensuite, on a eu la Game Boy Advance, qui passait, je crois, en 32 bits, si je dis pas de bêtises, qui était en tout cas améliorée.
Qui était presque plus une Game Boy.
Qui était une évolution, mais
on pouvait jouer,
La famille Game Boy, il y a eu la Virtual Boy aussi, la fameuse Virtual Boy, qui était un peu une évolution.
La Game Boy Advance a eu aussi deux itérations. Il y a eu l'itération espèce de rectangle, et puis après, clapet aussi.
La Game Boy SP, qui était très très bien.
Et ma préférée, moi, qui est la Game Boy Micro.
Toute petite, ouais.
Toute petite.
Game Boy Advance micro.
Donc une superbe success story. Donc c'était une console qui a été créée par Gunpei Yokoi, qui a aussi créé la Virtual Boy. Ouais. Et là, c'est une autre histoire sur laquelle on reviendra peut-être un jour.
Ce qui est marrant sur la Game Boy, au-delà de son succès aussi, c'est que si la Game Boy n'avait pas existé, à l'époque où Nintendo avait vraiment du mal sur les consoles de salon, notamment avec la N64 et le GameCube, aujourd'hui, Nintendo serait plus là, quoi.
Ça a été vraiment la machine.
Ça, c'était
Super Mario.
Super Mario. Super Mario.
Qui était un des premiers jeux sortis sur la console, qui était juste fabuleux. Je me rappelle, c'était juste une tuerie ce jeu.
Mais oui, c'était surtout de pouvoir amener ces jeux vidéo à l'extérieur. Il y a eu aussi ce qu'on a pas, on l'a cité parce que c'était la première musique passée, mais Tetris,
qui est quand même, c'est quand même la Game Boy.
Voilà, c'était quand même le jeu.
Le premier jeu transgénérationnel. Hein, voilà, en fait. Voilà. Le premier jeu où j'ai vu moi des vieux qui jouaient à la Game Boy, quoi. Je me rappelle.
Et c'est aussi la première fois où je pense qu'Alexis Pajitnov, donc l'inventeur de Tetris, a regretté de pas avoir les droits sur les jeux vidéo parce que.
Je sais pas si vous avez allumé une Game Boy d'origine récemment.
J'ai
gardé la mienne, ça pique un peu les yeux.
Ça fait drôle. Ça m'étonne.
Ça pique les yeux.
Non, mais c'est
assez rigolo de voir l'évolution qu'on a connu jusqu'à la DS aujourd'hui, de voir l'évolution graphique.
Mais une Game Boy avec une Game Boy classique avec Tetris aux chiottes, c'est toujours fantastique.
Ah bah ça reste.
Mais moi,
un classique indémodable.
Mais ça vieillit moins que les jeux sur la télé.
Et le son,
parce que on a un écran qui est pixelisé, mais en fait le pixel c'est pas moche en soi, c'est vraiment bien pixelisé.
Mais la 2D vieillit mieux aussi, hein. La 2D vieillit mieux
en général.
Moi j'adore le son de la première Game Boy. Il y a des gens qui font de la musique avec le son Game Boy.
Le son 8 bits, hein,
qui est fabuleux.
Le son 8
bits. Il y a un son très attachant, je trouve.
Et donc à l'occasion des 20 ans de la Game Boy, donc Nintendo a tué la Game Boy. Parce que c'est fini. La DSi, la DSi vient, c'est la première console depuis 1989 à ne plus être rétrocompatible Game Boy. Ouais. On va verser une larme,
mais je pense qu'ils vont trouver un nouveau filon et ils vont nous sortir les jeux Game Boy j'espère d'un côté qu'ils vont sortir des jeux Game Boy pas trop chers en version téléchargeable, probablement.
Ah oui, qui tournerait sur l'écran de la DS. Oui, c'est très très probable. Hein. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je ne sais plus. Si, non.
Oui, non. Tu veux qu'on te coupe, peut-être?
Coupons-le, vite. Non, Carwan, c'est pas possible.
Merde. Donc, 20 ans, c'est les 20 ans de la Game Boy Advance, etc. Et puis, voilà, c'est aussi la fin d'une époque, quand même, chez Nintendo. On va continuer avec la DS et c'est quand même pas mal. On en a fini cette semaine pour les jeux vidéo. J'ai un peu gagné la question rituelle. Et quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Clément?
Alors moi, j'aurais aimé voir une exposition qui s'appelle Our Body. L'exposition, enfin moi, mes parents et des amis étaient allés la voir. Malheureusement, elle était interdite. Alors donc je vais vous en parler parce que ça vient juste de tomber. Donc la justice interdit l'exposition anatomique Our Body. Our Body, c'était une exposition où il y avait 20 corps humains qui étaient coupés, on voyait anatomique. Et donc je vais pas prendre parti, mais c'est vrai que c'est un fait exceptionnel en France puisque la justice a interdit avant-hier une exposition qui est présente à Paris depuis le 12 février et qui a tourné dans toute l'Europe
et qui avait déjà été interdite, je crois, dans un pays, en Allemagne,
il
ou
me semble, ouais, en Allemagne,
il y a eu des controverses à chaque clash,
parce qu'en fait globalement les deux visions qui s'affrontent, c'est que du côté de l'organisateur de l'événement, on souligne le caractère pédagogique et scientifique, alors que les deux associations demanderaient ce qui sont Ensemble contre la peine de mort et Solidarité Chine arguent qu'ils portent atteinte aux droits humains. Donc voilà, donc là apparemment c'est
mal
barré.
Oui, parce qu'il y a quand même un débat sur l'origine
des corps
qui sont censés être des volontaires.
Et on n'est pas si sûr que ça, en fait.
Et on n'est pas si sûr que ça. Et donc, il y a quand même des choses.
Tout à fait. Mais effectivement, j'aurais bien aimé, en tout cas, voir l'exposition avant. Donc, ça m'apprendra à procrastiner. Voilà, voilà.
Voilà, Patrick.
Carwan, tu oses me demander ce que je fais, moi, cette semaine, alors que l'album de Depeche Mode vient de sortir dans les bacs. Je veux pas me demander ça, c'est pas possible.
Pardon.
Donc, j'écoute le dernier album de Depeche Mode. J'avais acheté sur iTunes. Et là, je crois que je vais craquer, en fait. Ils ont sorti une super édition avec, 3 CD, plein de bonus, un DVD making of. Donc je crois que je vais acheter l'édition spéciale. Très très bon album. Donc je le recommande pour tous les fans de Depeche Mode.
Et tu es pas déçu, c'est
non, c'est très très bon. J'aime beaucoup puisque je vais donc je vais essayer de trouver la version collector qui a l'air de disparaître à vue d'œil visiblement. Donc je vais partir à la recherche de cette édition très vite.
Bah moi, pour moi, cette semaine, entre Nouvelle Star et le fait de finir, parce que je sais pas pourquoi j'ai cité Nouvelle Star, c'est les rares trucs que je fais en dehors
des
jeux vidéo, ouais, c'est gênant. Hein. Le fait que j'ai fini GTA Chinatown Wars, mais qui ne rentre pas dans la catégorie.
En même temps, ou pas. Est-ce que tu regardes l'émission et tu joues en même temps ou non?
Non, je suis bien concentré. Moi, je regarde Nouvelle Star du très premier degré. Mais c'est libé, hein, c'est ça. Ouais, non, c'est grave. Si à la limite, qu'est-ce que j'avais? Si jamais j'en ai reparlé, je crois déjà deux fois, donc c'est encore les derniers. c'est encore les derniers.
Il a rien préparé du tout, c'est pas possible.
Les derniers épisodes.
Non mais c'est honteux,
ouais, ça va. Non, c'est les nouveaux épisodes, les derniers que j'ai achetés en tout cas de la série Y. Mais non, j'ai déjà au moins parlé deux fois, donc je ne vais pas en reparler. Voilà. C'est fini pour cette semaine. On se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo.
Libé Labo.
Hey marketers, advertisers, and business owners. Find yourself chatting up the same audience in the same places, using the same old lines? Maybe it's time to podcast the net further to catch your next customer. With Acast, there's plenty of fish in the sea with more than 100,000 podcasts and millions of listeners. So there's a perfect match for every business. Use our ad platform to cast your net, then narrow down using targeting such as demographic, show categories, audience segments, and more. Find your match, then reel them in. Advertise on more than 100,000 podcasts with Acast. Head to go.acast.com/closer to get started.